Vous avez peut-être vu ce documentaire, cette enquête du New York Times qui a fait couler beaucoup d'encre et qui s'appelle Framing Britney Spears. Framing, ça veut dire encadrer une personne ici, mais aussi la piéger. Pire, monter un coup contre elle. Parce qu'il s'agit de raconter comment un corps, en l'occurrence celui d'une petite fille, puis d'une jeune fille, puis d'une femme, a été exposé, malmené, jugé, moqué, traqué, puis sacrifié sur l'autel de la pop culture. Pas seulement par ses parents, par le monde entier. C'est la raison pour laquelle ce documentaire est si difficile à regarder, tant qu'il nous raconte l'histoire d'une pop star avec tout ce que ça peut comporter comme violence sur la psyché d'une enfant, on se dit qu'on est au courant. Quand il décrypte la façon dont l'industrie musicale a dépossédé Britney Spears pour mieux l'écraser, c'est une histoire qu'on connaît, qui a déjà été racontée. Quand il analyse le déchaînement médiatique autour de sa personne et l'annihilation totale de sa vie privée, c'est terrible, mais c'est presque un cliché. Le problème, c'est quand on comprend qu'un système dont on fait partie et qu'on ne cesse d'alimenter l'a littéralement sacrifié. Le problème, c'est quand on saisit notre propre responsabilité individuelle, mais aussi collective, face à l'emprisonnement d'un corps, face aux violences qu'on lui impose physiques, psychologiques, morales, pour notre plaisir. Parce qu'il ne faut pas se tromper, il s'agit d'industries qui nous vendent du plaisir. C'est ça, le divertissement. À travers la traque de Britney Spears et la façon dont on y a tous et tous contribué, ne serait-ce qu'en fermant les yeux, en l'acceptant ou en parlant sur un ton détaché, il y a quelque chose de terrifiant.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang qu'a dû sacrifier. Mon invité d'aujourd'hui, icône ô combien populaire des années 90, elle vous a tour à tour donné la foi, attisé votre feu, jeté le shame, tout en important en France des sonorités soul et R&B venues tout droit des États-Unis. Dans Résilience, elle met en lumière une vie partagée entre montée et descente, crash et fulgurance, trac et rédemption. Bonjour Ophélie Winter.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce
Merci
matin.
Merci à vous.
Avec le recul, qu'est-ce que vous avez été capable de supporter?
Tellement, tellement. Énormément de choses. Mais je pense que l'être humain a une adaptation phénoménale à la vie, quoi. Et on ne le sait pas du tout. Donc moi, j'ai exploré beaucoup de sacrifices. C'est vrai que le mot est bien trouvé.
Et qu'est-ce qu'on sacrifie, justement, dès lors qu'on devient une personne publique, dans votre cas?
Bah, tout. La vie change complètement. Enfin, moi, dans mon cas, j'ai commencé à 6 ans et j'ai eu du succès à 17. Et je pensais que c'était normal d'avoir du succès. Ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, mais ça retire toute vie intime, quoi, toute intimité. Quoi.
Et quand est-ce que vous vous en êtes rendu compte de ça, de la violence avec laquelle on s'emparait de votre image?
Je m'en suis rendu compte très vite parce que ça créait des problèmes entre moi et mes conjoints à chaque fois. Surtout les conjoints connus, parce qu'il y avait une espèce de course à qui avait plus de couverture, alors que moi, je voulais être discrète et sur ma vie privée. Et même, c'était impossible. J'étais chaque semaine, je me rappelle des années 90, où le dimanche soir, j'avais mal au ventre tous les dimanches, parce que je savais que le lundi, il y avait un Voici qui sortait, que j'allais être en couverture, qu'ils allaient dire n'importe quoi.
Et comment vous réagissiez à l'époque? Comment on fait pour redevenir maîtresse de son image?
On ne vient jamais maître de son image, et je pense que depuis que c'est la génération Internet, c'est encore pire, quoi. Puis maintenant, les gens, quand je fais un show, on chante devant des téléphones, quoi.
Mais ça veut dire qu'on n'a aucun contrôle, en fait.
Aucun contrôle. Celui qui dit qu'il a un contrôle, c'est que c'est DiCaprio qui a 75 business à faire et des avocats payés très cher. C'est irréel. C'est impossible de vraiment gérer, à mon niveau, je veux dire, de gérer une image. C'est impossible.
En près de 30 ans de carrière, quand même, Ophélie Winter, quel personnage au pluriel avez-vous eu le sentiment qu'on ait fait de vous?
On m'a bimboisé. J'ai d'ailleurs détesté ce mot parce que personne, en France, les gens utilisent les mots vraiment à mauvais escient.
Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire poupée, de la jet set?
Ben voilà, déjà, poupée, moi, je suis un garçon. Deux, jet set, je supporte pas les gens de la jet set, pardon, j'ai du mal. Je peux m'y fondre pour une soirée, voilà, mais le temps d'une heure ou deux, mais ça me gonfle.
Ça n'avait rien à voir avec vous?
Pas du tout. Et j'espérais qu'à travers ce livre, on puisse comprendre ça, quoi. Il y a erreur sur le casting, quoi.
C'est le cas. Et en ce sens, le livre est assez passionnant, je dois dire. Aujourd'hui encore, c'est l'effet que vous produisez peut-être sur les médias. L'hystérie médiatique qui vous entoure, on l'a vu avec la sortie de ce livre. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on fait cet entretien un peu plus tard tous les deux.
Tranquillou.
En fait, au départ, on vous a porté au nu tout en insistant presque seulement sur votre physique, ouais, et jamais sur votre musique ou sur ce que vous aviez à dire. Ensuite, on a commencé à vous descendre avec acharnement. Vous le racontez, Ophélie Winter, quand est-ce que vous avez senti que le vent tournait, que la machine médiatique en fait se retournait contre vous?
Là, il y a deux ans. En plus, je suis inactive. il y a 2 ans. J'étais complètement inactive, je n'ai pas d'actualité, je suis... voilà, donc il n'y a aucune raison pour s'exciter comme ça sur moi d'un coup. J'ai rien fait, je ne suis pas passée à la télé, je n'ai rien dit de public, ni un mauvais tweet, ni rien. Ça s'est acharné sur moi et je sais d'où ça vient. Je ne vais pas en parler à la radio parce
une
que
médisance.
J'ai... C'est quelqu'un qui me veut du mal, et je sais que c'est toujours la même personne, mais je ne vais pas lui faire ce bonheur de parler d'elle. Voilà, c'est... J'ai vécu une vague, peu de gens seraient restés vivants après ce que j'ai vécu. Ça pousse au suicide, ça pousse à la dépression, l'enfermement, enfin c'est...
Et vous vous êtes posé la question, parce que je suppose qu'on se la pose, hein, pourquoi vous ?
Ouais, je me suis posé.
C'était quoi ? C'était votre physique, votre jeunesse, votre blondeur ?
Je sais pas, c'est que les gens... À l'époque où j'ai réussi, je réussissais trop de choses en même temps et j'avais pas d'étiquette. Et c'était pas du tout le format français de la personne qui réussit. Donc ça a énervé les gens. Et moi je le faisais pas pour les énerver, c'est parce que j'avais fait mon plan quinquennal et que je voulais un peu toucher à tout, quoi. C'était vraiment, j'avais fait mon plan, donc il fallait que ça roule comme ça, quoi. C'était une évidence.
Puis vous étiez curieuse.
Bah grave, quand on est jeune, c'est ça qui est génial. On a l'énergie et la curiosité. Donc j'ai tout fait, quoi.
Et ça vous est arrivé d'avoir le sentiment, malgré votre carrière hein, dans la musique, au cinéma, de n'être considéré que comme un objet? Vous parlez
de
poupée.
Je suis un baril de lessive ou une poupée. La poupée, moi ça m'énerve. Parce que j'ai le peu de fois où j'ai joué avec des poupées, c'était pour leur brûler les cheveux, leur mettre du marqueur rouge
le
dessus.
Le baril de lessive, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ça, c'est le truc des années 80 où les producteurs faisaient des coups. Et un artiste, c'est de la lessive, quoi. C'est un baril de lessive, c'est une marque. Il faut déposer ta marque et te vendre au maximum, quoi.
Ce qu'on ressent à la lecture de votre livre, Ophélie Winter, c'est que très jeune, on vous a enfermé dans un rôle, en fait. Je pense par exemple à votre carrière au cinéma, où les rôles que l'on vous proposait manquaient de consistance à votre goût, ne vous nourrissaient pas.
C'est ça.
Quel rôle est-ce que vous rêviez à l'époque ?
Je rêvais d'un Tomb Raider, un rôle comme Tomb Raider ou un truc où...
Angelina Jolie en Lara Croft.
Voilà, pas nécessairement être jolie, quoi. J'avais envie d'un truc, ou aussi comme Monster avec Charlize Theron, un truc où t'es moche, où t'as un œil verron. Je voulais qu'on me rase la tête, qu'on me mette dans la boue, qu'on me fasse faire un truc de militaire. Là, on me propose des séries, justement, on m'a appelé, des gros producteurs m'ont appelé en me demandant de faire une série où je serais un peu badass. J'ai dit, mais grave, tout de suite, j'ai envie de mettre des high kicks. En plus, j'ai fait du kickboxing pendant des années. Donc, j'ai envie de montrer ça à la télé, enfin aux gens, quoi.
Vous savez, je me pose la question, quand toute sa vie on a été regardé, parce que le livre parle de ça, hein, que le moindre de ses mouvements, la moindre de ses évolutions physiques est commentée, quand on vous shame, c'est-à-dire quand on vous désigne comme un objet de honte, si souvent et pour aucune raison, que finit par représenter le regard des autres?
Ah, c'est une agression. C'est pour ça que j'ai mis un océan entre le regard des autres et moi, quoi. C'était nécessaire, je peux pas. J'ai pas une vocation à porter une casquette et un masque et des lunettes. Moi, je suis une sauvage, je suis un loup, j'ai besoin de courir, j'ai besoin d'être dans la lumière, le soleil, l'océan, et qu'il y ait pas des gens qui me prennent en photo ou qui me jugent ou pas. J'ai pas envie de m'habiller, je suis vraiment un indien dans la ville, quoi. Non, mais vraiment.
Il y a 25 ans, vous chantiez Shame on You. Honte à toi. La honte, quel sentiment est-ce que c'est pour vous?
La honte, c'est ce que j'ai vécu après la période où on parlait de drogue et qu'ils ont été dire que j'étais dealer international. En plus, c'est quand même, c'est...
Tant qu'à faire, au
fait. Bah ouais, on fait pas les choses à moitié. À Pablo Escobar. Donc, on a dit que on a dit ça. Ça a duré, je me suis vu aux 20 heures et tout. J'ai fait 3 heures de garde à vue pour être entendu, écouté pour une affaire dans laquelle je n'avais absolument rien à foutre, quoi. Rien à faire.
Et vous avez vécu la honte?
Mais pendant 2 ans, j'ai marché. D'abord, je suis restée beaucoup reclus chez moi. Et quand j'ai commencé à ressortir, je me suis pris un jour un feu rouge ou un poteau dans la tête.
Ah, carrément.
Et je me suis rendu compte, du coup, que je regardais que mes pieds, quoi. Tellement j'avais honte. Et là, j'ai dit, ça suffit, quoi. Faut regarder devant soi, quand même. Faut arrêter la honte.
Et donc c'est fini, là, maintenant?
Shame on them. Shame on
them. Celle qui n'a que faire du regard des autres dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est La Culture. Et son actualité, no shame, no pain, et souvent no gain. Il faut le dire, que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 16 juin?
Bonsoir. Bonne soirée.
L'actrice Doria Tillier a été choisie pour être la maîtresse de cérémonie d'ouverture et de fermeture du Festival de Cannes. Les 6 et 17 juillet prochains, elle succède à Édouard Baird, qui assurait les festivités depuis 2018. Révélée comme humoriste sur Canal+, la comédienne s'est faite remarquer sur grand écran dès 2017, dans les films Monsieur et Madame Adelman, puis La Belle Époque de Nicolas Bedos, ou encore Yves de Benoît Forgeard. Passée derrière la caméra, elle révélera bientôt La Diagonale des Fous, un premier court-métrage des Dojena.
2 millions. Adjugé 2 300 000.
Une lettre manuscrite de Georges Sand à Flaubert, une édition originale d'Histoire d'eau de Pauline Réage datée de 1954, ou encore un exemplaire dédicacé de la thèse de Marie Curie sur la radioactivité dont la scientifique a inventé elle-même le nom au début du XXe siècle. La maison Christie's à Paris consacre aujourd'hui une vente aux enchères événement consacrée uniquement à des œuvres de femmes, en tout 110 lots dont les mises à prix vont de 200 à 300 000 euros pour rappeler le rôle essentiel des créatrices dans l'histoire de l'art.
Bonjour à tous, c'est Jean Imbert. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une recette de ratatouille.
Top Chef, célèbre hôtel parisien Le Plaza Athénée, a annoncé hier que Jean Imbert prendrait la tête des cuisines du Palace. Dès le 1er juillet prochain, il succédera à Alain Ducasse, le Français le plus étoilé du monde, qui collaborait au Plaza depuis près de 20 ans. Révélé par l'émission Top Chef, résolument médiatique, dynamique, populaire, Jean Imbert, pas encore 40 ans, pas encore d'étoile au Michelin, aura pour mission de donner un coup de jeune à la carte et à la salle de l'établissement mythique Chaudevant. Et enfin, mercredi de grosse chaleur, cinéma en douceur, aujourd'hui dans les salles obscures et fraîches, outre la nuée, le film de genre de Juste Philippot, dont la comédienne Soulian Brahim était l'invitée de la Miss Salamé ce matin. On applaudit Médecin de nuit, le thriller tendu et chirurgical d'Elie Wajsman. On double le plaisir avec les deux Alfred, des deux Podalides, qui signent une comédie fantaisie sur les dérives de la Startup Nation. Et sinon, on monte le Sound of Metal, premier long percutant de Darius Marder, auréolé d'un Oscar du meilleur son grâce au Français Nicolas Becker et son équipe. Ophélie Winter, invitée de Boomerang ce matin pour parler de résilience, mais aussi de musique, sujet sur lequel on vous interroge pas assez,
merci,
je trouve.
Merci.
Ophélie, quand est-ce que vous avez découvert que vous aviez une voix ?
J'ai toujours chanté depuis l'âge de 6 ans. Comme j'étais frustrée qu'on me fasse chanter des conneries à la télé et que les enfants sont super cruels et tout, j'ai commencé à m'entraîner sur Whitney Houston.
Parce que c'est ça en fait, ce qu'il faut raconter, c'est que votre mère très vite s'en est rendue compte,
ouais,
de cette voix. À quel âge, pour la première fois, êtes-vous entrée dans un studio d'enregistrement ?
6 ans.
6 ans.
Ouais.
Mais qu'est-ce qu'on fait à 6 ans ?
Bah, on lit le texte et on chante, quoi.
Et on chante quoi, vous vous souvenez ?
Bah, moi, je chantais la chanson des klaxons. Ben, je suis sûre que vous l'avez, en plus.
Non, je n'ai pas.
Merci, Augustin.
J'ai pas vous faire ça.
C'est gentil.
J'ai pas nous faire ça.
Et voilà, merci.
Très tôt, votre mère a voulu faire de vous une chanteuse à succès, en fait. Vous chantiez pour elle. Quand est-ce que chanter est vraiment devenu un plaisir ? Quand est-ce que c'est devenu quelque chose que vous faisiez parce que vous en aviez envie profondément et non parce que vous étiez plus ou moins obligé de le faire ?
Bah, sur Dieu, en fait. Parce que vraiment, Dieu m'a donné la foi faisait partie d'une salve de 3 singles. À l'époque, c'était CD 2 titres. Face A, face B sur un CD, va comprendre. Et n'importe quoi. Et donc j'en avais fait 2 qui étaient nazes et que j'assumais pas du tout avec les frères Nakache à l'époque. Et le 3e, mon patron se barrait et m'a dit ton prochain single, soit il marche, soit tu dégages. Donc grosse pression. Et du coup j'ai écrit Dieu avec mon frère et j'ai dit je veux parler de Dieu parce que je veux honorer Dieu. Je sais qu'on va se faire virer de toute façon, autant que personne n'écoutera, donc autant que je fasse un truc qui me ressemble.
Et là ça devient un plaisir.
Et là je découvre chez Foucault à l'époque. On va loin.
Hein. Non. On l'adore, Jean-Pierre.
Mais oui, je l'adore. Et je découvre chez Jean-Pierre Foucault que j'ai un tube le soir où je la chante et que je vois que tout le monde se lève et je me dis dans ma tête et je suis en train de faire le playback ou même pas, je chante en vrai, je me dis mais c'est ça d'avoir un tube en fait. Et là, ça commence à être kiffant.
C'est-à-dire que c'est kiffant, mais c'est plus que ça. Parce que moi, j'ai une confession à vous faire, Ophélie. C'est pas avec Whitney Houston que j'ai appris à chanter, moi. Et comme beaucoup de gens de mon âge, de ma génération, c'est entre autres avec vous. Et c'est entre autres, effectivement, avec ça.
Ils sont mignons.
Tout le monde danse. Hein.
C'est génial.
Il y a ça aussi.
Ça me paraît tellement une autre vie.
Ah bah.
C'est génial.
Fiancée, what a touché.
J'adore.
Allez, une autre.
Bien. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça.
Une dernière quand même.
Elle pleure.
J'aime.
Sans violer son âme, peu du douceur. L'entendez-vous? Elle pleure. Son esprit s'en va.
Vous avez beaucoup pleuré?
Ouais. Et vous? Non, j'ai beaucoup pleuré. Non, je suis pas une chouineuse. J'ai plutôt tendance à encaisser et avoir honte de pleurer toute seule. Donc, parce que on est plusieurs dans mon cerveau quelque part. Donc, j'ai un peu honte de pleurer toute seule. Mais maintenant que j'ai lâché prise, en fait, c'est un vrai lâcher prise, j'ai plus honte du tout de pleurer. Donc, et je trouve que c'est mieux de pleurer tout de suite un truc et de le sortir de son système plutôt que de faire des ulcères perforés comme j'ai fait, qui sont très douloureux.
Mais la musique, ça a pu être un réconfort à certains moments.
Ah, c'est déjà pour, après ma paralysie faciale que j'ai, après la névralgie d'Arnold et la double névralgie des nerfs trijumeaux de la face, j'ai passé un an dans le noir sans pouvoir parler. J'avais des douleurs monstrueuses quand je suis sortie de l'hôpital. Et il y avait que la chanson. Quand les crises arrivaient, avec la musique, le fait de chanter, qui me faisait passer, ça m'apaise, ça ouvre les chakras, ça pose, ça ground.
Et ce qui est intéressant quand même dans votre parcours, c'est que vous avez été l'une des premières françaises au milieu des années 90 avec cet album, No Sousa, et à déployer des sonorités R&B dans votre musique, porter ce genre musical, le démocratiser auprès d'un public français.
C'est ça, le démocratiser.
C'était un enjeu pour vous?
Surtout, c'était un enjeu du fait que j'avais M6 derrière qui me disait, mais ça marchera jamais, ça, c'est de la merde. Je leur disais, la Dance Machine, je commence à en avoir un peu marre, on peut changer de musique. Ils m'ont dit non. Donc, j'avais une grosse pression de leur prouver qu'ils avaient tort, quoi. Néanmoins, j'ai pas baissé mon style.
Ah, puis c'est ça, vous êtes arrivé avec le mot style, avec des I un peu partout. Ouais. Vous êtes arrivé avec des wayens, des veillens, ouais. Des wadadoo et des vadadoo, qui ne sont pas des mots anglais, Ophélie.
J'avoue, mais c'est le one again flair.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Mais c'est rien, c'est une attitude.
Mais moi, j'étais prof d'anglais. Hein.
C'est vrai?
The one again what?
Oh, sorry. I'm so sorry, darling.
Je veux comprendre.
Mais c'est ce qu'ils appellent aujourd'hui les nouveaux jeunes, le swag.
Le swag.
Ah, j'avais le swag.
Et c'était avoir le swag de se faire appeler Ophéla et pour un album qui s'appelait No Sousa.
Bah évidemment, c'était ma styliste, Mademoiselle Agnès.
Qu'on embrasse.
Voilà, qu'on embrasse grave. On était les sorcières d'Eastwick. Et donc on avait commencé à inventer une langue. Donc la langue de Haï, donc c'était Ophelman, Ophelaï, No Sousa. Il y avait que nous qui nous comprenions, mais c'était marrant.
Ben là c'est Augusta qui vous parle. Mais il faut dire quand même, si on redevient sérieux, qu'avant cet album, vous aviez passé plusieurs années aux États-Unis avec le musicien Prince.
Ouais.
Musicalement, Ophélie Winter, qu'avez-vous le sentiment d'avoir appris à son contact?
Ah bah tout. C'était mon mentor, il m'a...
Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a tout écouté.
Ah oui, il m'a toujours dit, tu auras un tube quand tu l'écouteras dans ta chambre, dans ta salle de bain, quand tu le chanteras non-stop dans ta voiture. Et
il a dit quoi? Sinon, quand il a entendu Dieu?
Ah mais il m'a dit, c'est un tube.
Direct?
Ouais.
Bon, ça c'est classe quand même, venant de
Prince. Ouais, c'est classe, ça fait plaisir, on va dire.
Et quand il a entendu Shame On You?
Pareil. Il me validait tous les morceaux à chaque fois. J'en avais un entre les deux et il m'a dit, you like it? Pas vraiment, non. Not really.
Not rely.
Not rely, c'est ça.
Je plaisante.
C'est bien.
Comment vous l'avez rencontré, en fait? Il faut nous raconter, parce que c'est une histoire assez dingue.
C'est un truc de fou. D'abord, mon frère m'emmène voir Prince quand j'ai 14 ou un truc comme ça, 15 ans. Et après, moi, j'ai un copain qui fait la première partie de Prince et qui s'appelle Théo Allen, qui était mon choriste. Et donc, je l'ai vu sur scène. Une fois qu'il a quitté la scène, je vais backstage pour le retrouver, quoi. Donc, en rentrant dans les loges, je croise Prince qui sort des loges pour aller sur scène. Je vois qu'il me check. Il me regarde de haut en bas.
Ah bah ouais.
Et donc ça s'est fini qu'il m'a écrit. C'était une soirée non fumeur dans les années 90, ça n'existait pas. Mais donc j'ai cherché une clope partout et au bout d'une heure je trouve une cigarette. Je me l'allume tranquillou dans le VIP et il y a une main qui me prend ma main et qui m'écrase ma clope. Et je me retourne et j'insulte le mec. Et pendant que je l'insulte, je vois que c'est Prince, mais je m'en fous, je continue à l'insulter. Et le mec a trouvé ça drôle.
Et vous l'avez suivi?
Et il m'a dit, viens, est-ce que tu sais faire à manger? J'ai dit oui. Et il me dit, viens, on va à la maison, je vais écouter ton disque.
Mais vous n'aviez pas peur?
Non, j'ai peur de rien, moi.
Vous n'avez peur de rien?
Non. Non. À part de la torture, mais sinon, non.
On a tous peur de la torture, ça c'est vrai. En tout cas, si Prince a autant compté pour vous, vous l'écrivez, c'est parce qu'il a agi avec vous comme l'aurait fait un mentor. Il a réellement cherché à vous aider dans ce monde si particulier, Ophélie Winter, qu'on qualifiait parfois de showbiz. C'était rare de trouver des gens qui vous voulaient du bien.
Il n'y a pas de gens bienveillants dans ce métier.
Bah, il y a lui.
Bah, il y a lui. C'est gentil de dire il y a lui parce que j'aime pas quand on parle de lui au passé. Mais c'est vrai que lui, c'était la seule personne. Il a vu un potentiel en moi, au-delà du fait que je lui plaisais énormément. Mais nous, on a enregistré des morceaux ensemble. On a commencé dès le premier mois de flirtage. On faisait des séances de photos, on préparait la couverture de l'album, on a fait plein de morceaux.
Encore aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce qu'il continue à vous aider?
Je l'ai avec moi pratiquement. C'est très étrange, hein. Je suis pas perché, mais je l'ai vraiment pratiquement plus que de son vivant. Il m'accompagne. Il y a plein de moments.
Il vous parle ?
Pas parler, mais c'est des signes, c'est des chants, par la musique beaucoup, et par des couchers de soleil, des images, des trucs. C'est quand je suis seule. Quand je suis seule avec la nature.
Des couchers de soleil violets.
Bah oui, bien sûr, The Purple Coucher de Soleil.
1984 sur le titre Purple Rain. Dont vous dites parfois, Ophélie, que c'est la plus belle chanson du monde.
Ouais.
Vous êtes sur France Inter avec Ophélie Winter. Vous écoutez Boomerang sous une pluie violette. I never meant to call you when you're far away. I never meant to call you when you're pain. I'm the one who wants that night to be laughing.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Elle est exactement comme vous l'imaginez, hein. Le cheveu blond, l'œil bleu, le sourire généreux, tout en gris. Ce matin, Ophélie Winter, invitée de Boomerang, pour parler de résilience, mais aussi d'un sentiment qui vous a poursuivi toute votre vie, celui d'être jamais vraiment à votre place.
Ouais.
Aujourd'hui, où est-ce que vous vous sentez à votre place ?
Je me sens à ma place partout maintenant. Franchement, je me sens plus Ophélie Cleary-Copper qu'Ophélie Winter, mais je suis devenue une personne apaisée. Je suis enfin heureuse. Je sais même pas pourquoi, mais je suis heureuse. Si, je sais pourquoi. Parce que là, quand j'ai vu que mon livre était numéro un partout des ventes, j'en croyais pas mes oreilles, quoi. Ni mes yeux. Je suis choquée que
peut-être qu'on a envie de vous lire.
Mais je pensais pas que les gens, franchement, je trouvais ça prétentieux de ma part. Déjà, à 20 ans, c'était super prétentieux et j'ai dit non. Mais là, je me suis dit, ça va intéresser qui, en fait, l'histoire?
À votre avis, pourquoi ça intéresse les gens?
Parce qu'il y a eu tellement un foin pendant 2 ans où ils ont dit tellement d'horreurs que j'étais ruinée, que je dormais dans ma voiture et je ne sais quoi.
Peut-être aussi qu'ils ont grandi avec vous.
Oui, là c'est pas faux, c'est vrai.
Bah ouais.
Mais il y a plein de gens qui viennent me voir dans la rue pour me dire c'était bien telle émission, on est content de vous voir et tout. C'est super touchant. Mais c'est des gens qui m'ont, c'est vraiment le public qui m'a tenu en vie pendant les 10 dernières années, je pense. Ça m'a fait vraiment du bien, quoi.
Où est-ce que vous avez grandi, Ophélie Winter?
J'ai grandi dans le sud beaucoup. Mon beau-père, le Zibo, la personne qui m'a élevé, que je considère comme mon père, avait une maison là-bas, qu'il a toujours. Et donc, on passait nos étés guerre des boutons avec mon frère là-bas à faire les cons. Et c'était fabuleux, ces étés. Sauf que, voilà, j'avais un petit souci technique avec la personne qui me gardait, ma grand-mère et mon oncle. Et j'avais des attouchements sexuels avec mon oncle. C'était le côté chiant du, de ses vacances, mais le reste était fabuleux, quoi.
Vous en gardez quoi de cette enfance?
Ben, j'en garde rien. J'ai posé mon sac de parpaings il y a quelques mois, ben, une année presque, et j'en garde plus rien. Je commence vraiment une nouvelle vie, j'ai l'impression d'être vraiment quelqu'un d'autre.
Dans votre livre, vous écrivez que vous étiez, quand vous étiez petite, 100% bâtarde. 100% bâtarde, ça veut dire quoi exactement?
Ben, ni goy, ni juive. Alors que mes grands-parents ont fait les camps et toute ma famille était marquée avec les numéros sur ni black ni blanche, parce que quand Warner aux États-Unis ont sorti mon album le premier chez Elektra, les radios blanches disaient qu'elle chantait comme une black, on pouvait pas la jouer parce qu'elle était blanche, et les radios black disaient qu'elle j'ai chanté comme une black mais j'étais blanche, donc ils pouvaient pas me jouer, donc personne pouvait me jouer, donc j'étais toujours jamais ce qu'il fallait. J'étais mannequin, mais j'étais 1m70, c'était limite, donc pas vraiment mannequin, pas vraiment actrice, pas vraiment, je sais pas.
Et en quoi ce sentiment d'exclusion justement permanent vous a paradoxalement rendu plus débrouillarde? En quoi ça a été une force?
Bah parce que plus t'as d'embûches, plus il faut mettre appui sur le champignon, quoi. Ouais. Donc
puis on a intérêt à être débrouillarde quand on est fichu à la porte de chez soi à 16 ans.
Ouais, mais ça c'est plutôt une bonne chose. Et franchement, j'en veux vraiment pas à ma mère pour ça. Ça c'est une bonne chose qu'elle l'ait fait, parce que
mais c'est une séparation brutale. Quand
c'est
même.
C'est la manière, voilà. Il y a la forme et le fond. Là, je trouve que la forme était un peu violente. Après, la pauvre, je la plains aussi, parce que élever deux gosses toute seule, après avoir vécu la vie qu'elle a vécue, les Rolls, les machins, l'opulence, la folie avec mon père qui est complètement la folie, les cadeaux, les voitures sous ruban, voilà.
Et quel genre de mère est-ce qu'elle a été?
Bah, elle a été ce qu'elle a pu, la pauvre. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle avait deux jobs. Elle bossait comme une dingue. Elle avait trois mecs en même temps. Nous, on s'est un peu embringué les pinceaux là-dedans.
Mais c'est une mère aussi, à vous lire, qui, dès votre plus jeune âge, surveille constamment votre physique, votre apparence, ouais, votre corps. Ça laisse des marques, ça, quand même.
Ça, c'est chiant. Franchement, c'est pénible, parce que c'est marrant que le coup de la carte avec l'aîné, le bon, pour mon anniversaire, ait choqué autant de journaliste. En fait, pour mes, je sais plus, 15 ans, on se faisait des bons souvent, parce que comme elle bossait beaucoup, elle avait pas le temps de nous faire des cadeaux et tout, donc elle nous faisait un bon pour un cadeau, un bon pour un câlin, un bon pour un massage. Et donc là, j'avais un bon pour, elle avait fait un collage de nez dans des magazines sur la recto, et au verso, il y avait marqué participation de 1000 francs pour ton nez. Trois petits points. J'ai pas compris tout de suite.
Bah, c'était la chirurgie esthétique.
C'était pour me refaire le nez, parce qu'en fait, elle l'a refait. Elle l'a fait refaire à mon père. Comme j'avais exactement la même tête que mon père, ça devait pas trop lui plaire d'avoir un souvenir permanent de son échec avec lui. Donc,
je veux dire pourquoi elle marque cette anecdote. Parce que ce qui me frappe dans votre livre, Ophélie, c'est qu'en filigrane, ce qui se joue, c'est quand même l'histoire d'un corps. Un corps scruté, violé, fantasmé, adulé, sculpté, un corps pourtant rejeté, mal aimé, souffrant, malade, un corps qui finit par se retourner contre vous,
ouais,
aussi.
Tellement, c'est ça. Mais ça, c'est un truc de dysmophobe. J'ai un problème, je ne me vois pas comme je suis. Si j'avais pu me voir comme j'étais, je parle pas que physiquement, hein. Je pense que je suis plus riche à l'intérieur qu'à l'extérieur, grâce à Dieu, mais...
À quel moment il s'est retourné contre vous, ce corps?
Quand j'ai découvert que l'impensable, que ma mère n'était pas aussi blanc-bleu avec moi que je l'étais avec elle, et que je comprends pas qu'une maman qui vous porte pendant 9 mois puisse faire un truc pareil, quoi. Mentir ou mettre mal son enfant qu'elle a acheté de sa maison pour qu'elle aille travailler, pour qu'elle gagne de l'argent, pour que ça lui revienne à... Voilà, en fait, moi, je suis partie travailler en me disant je veux gagner beaucoup d'argent, je veux acheter une maison à ma mère, je veux que mon frère ait son appart. Enfin, c'était vraiment... J'étais le chef de famille, quoi, comme il n'y avait
alors,
pas de père.
Quand tout s'écroule, on en vient à détruire son propre corps.
C'est ça. Apprendre des conneries. Et puis même, à force de serrer les dents et de sourire, il y a un moment donné, le corps, il te fait un doigt. Pardon, c'est vulgaire, mais il te fait un doigt. Il dit, bah écoute, non, là, c'est fini, là.
Vous êtes fait
c'est
peur.
C'est burn-out, ouais.
Parfois.
Ouais. En fait, je faisais des cures plusieurs fois par an en Autriche pour nettoyer les émotions qu'on a comment on appelle ça?
Les intestins.
Intestins, voilà. Parce que c'est tout l'émotionnel qui est là. Et donc, je le faisais 2 fois par an, et vraiment, ça m'a aidé aussi au lâcher prise. À ce moment-là, la dernière fois où j'y suis allée, c'était il y a un an et demi, et ils m'ont dit vous êtes en burn-out physique et mental, nous on a le devoir de vous mettre à l'hôpital. Je me suis dit waouh.
Au fond, qu'est-ce que c'est un corps pour vous, Ophélie Winter?
C'est un véhicule.
Par le savoir.
C'est un véhicule. Pour moi, c'est un véhicule. C'est le véhicule de l'âme. Donc
c'est un allié.
C'est un allié jusqu'à ce que vous le négligiez, quoi.
Et aujourd'hui, quand vous regardez dans un miroir?
Ah non, j'essaie d'éviter les miroirs, parce que j'ai eu un cambriolage très violent qui m'a défiguré. Donc je ne me supporte plus en miroir. Donc c'est aussi la question, là on me propose de faire des films et tout, je me dis oh là 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 là, faut un chef-op génial, faut vraiment, parce que je m'angoisse quoi.
Vous pouvez plus vous regarder ?
Non, j'avais déjà du mal à 20 ans, donc imaginez la dysmophobie plus ça, enfin, c'est une catastrophe quoi.
Moi je vois une résiliente.
Ouais, voilà, oui.
Passer c'est le titre ça. De votre livre.
Malady, ben oui, je suis résiliente, mais
je vais pas te dire. Le mot. Malady, vous avez dit ?
Non, j'ai dit Malady, je parle avec l'accent belge.
Moi j'ai cru que c'était de l'anglais encore, non, enfin non. De l'anglais.
Glanglaille.
Qui est une nouvelle langue. Merci tellement.
De rien, merci mentor, à vous.
D'être venu faire un tour dans Boomerang Résilience. Votre autobiographie vient de sortir, c'est publié chez HarperCollins. Alors c'est un livre qui fait quand même pas mal réfléchir hein, sur les errances, sur les folies d'une époque, sur celles et ceux qui s'en sont sortis aussi malgré tout.
Voilà.
Merci.
Merci à vous.
Tout de suite les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Je suis jamais à l'aise dans les cocktails, la foule des villes à gravité. La musique m'emmène loin du bordel, le feu de Johnny Hallyday. Rien ne serait pareil sans toi, pourquoi t'as peur que je t'oublie? Je pourrais croiser des centaines d'entre elles, les yeux bandés, je t'en trouverai quand même. Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite tant que tu m'aimes. Comment on fait pour profiter? Tout peut t'arriver, tout peut t'arriver. J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fermé l'œil. Juste au cas où, si t'étais seul, t'aurais dû m'appeler. Tout peut t'arriver, les rien, les graves. Tout peut t'arriver. J'arrive pas à descendre, le stress m'étrangle. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. Et le diable serait comblé. Sentiment étrange, c'est comme si on dispersait mes cendres. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. La fin de la prophétie se complète. J'arrive pas à descendre, le stress m'étrangle. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. Et le diable serait comblé. Sentiment étrange, c'est comme si on dispersait mes cendres. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. La fin de la prophétie se complète. Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite tant que tu m'aimes. Comment on fait pour profiter? Tout peut t'arriver, tout peut t'arriver. Toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fermé l'œil. J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fermé l'œil. Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite tant que tu m'aimes. Comment on fait pour profiter? Tout peut t'arriver.